Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée au sommet intercoréen d'hier vendredi, un sommet historique qui s'est tenu dans la zone démilitarisée entre les deux pays. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et d'une paix permanente. La Corée est-elle au seuil d'une histoire nouvelle? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Juliette Morillo, journaliste, historienne, spécialiste des deux Corées et auteur de plusieurs ouvrages dont Le Monde selon Kim Jong-un, coécrit avec Dorian Malovic et paru aux éditions Robert Laffont, et La Corée du Nord en sans question aux éditions Thaïlandier, ouvrage qui a reçu le prix du meilleur livre de géopolitique 2018. Bonjour.
Bonjour.
Et Dorian Malovic, qui est journaliste, chef du service Asie au quotidien La Croix, donc co-auteur avec Juliette Morillo de Le Monde selon Kim Jong-un aux éditions Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Avant de vous demander de nous éclairer avec vos analyses sur la déclaration de Panmunjom, des images vues à la télévision, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Juliette Morillo?
Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est tout simplement, c'est peut-être une litote, c'est que nous sommes face à des Coréens, nous sommes face à deux Coréens. Je retiens le mot frère plutôt que frères ennemis. Et il y a une image qui m'a particulièrement impressionnée, c'est un moment où on voit Moon Jae-in, le président sud-coréen, et Kim Jong-un, le leader nord-coréen, face à un paysage de montagne avec un cratère au milieu. Ce paysage de montagne, avec ce cratère, il s'agit en fait d'un volcan, il s'agit du mont Paektu, qui est un lac de cratère. Et on a l'habitude de le voir derrière cette fameuse présentatrice nord-coréenne qui annonce de façon très militaire les essais nucléaires et les grandes annonces. On a l'habitude de le voir à ce moment-là. Et on l'associe à la Corée du Nord. Or, c'est là qu'est né le premier ancêtre de tous les Coréens. Et cela veut dire simplement que nous sommes face à des Coréens et que finalement, cette rencontre, ça montre, et là je vais vous faire allusion à un proverbe qui est « quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu », c'est ce qui résume l'histoire de la Corée et qui peut résumer également ce qui se passe aujourd'hui. Les baleines, ce sont les grandes puissances et les crevettes, on l'a bien compris, il s'agit de la Corée. Alors les grandes puissances, bien évidemment, alors au nord vous avez autrefois l'URSS, maintenant la Chine, au nord du 38e parallèle, au sud vous avez les États-Unis, et puis finalement les Coréens n'ont jamais été véritablement maîtres de leur destin. Et là, face à ce cratère, symbole véritablement de la nation coréenne au nord comme au sud, on réalise finalement que les crevettes reprennent le destin de la péninsule en main.
Dorian Malovic, sur ce qui vous a le plus frappé, ce sommet, cette journée?
Écoutez, ce qui m'a frappé, mais surtout ce qui m'a touché, c'est un geste tout simple qui a été fait par le leader nord-coréen Kim Jong-un dans la matinée. Mmh. Il franchit la ligne du 38e parallèle, il va de l'autre côté, Moon Jae-in l'attend de l'autre côté, on se serre la main. C'était très protocole, hein. Tout était bien prévu, tout était bien écrit, ça s'est déroulé normalement. Et ils se sont dit « Bienvenue » et Moon Jae-in a dit « Quand est-ce que je pourrais un jour aller en Corée du Nord ?» Voilà. Et Kim Jong-un a dit « Eh bien, nous allons y aller ». Et il l'a pris par la main, il l'a fait traverser la frontière au nord. Et cette journée-là, elle se résume encore, et on rejoint ce que vient de dire Juliette Morillo. Je trouve ça très touchant parce que finalement, Moon Jae-in est issu d'une famille nord-coréenne qui s'est réfugiée au sud pendant la guerre. Donc ça, c'est assez émouvant quand même. Et il lui a dit, viens, je t'emmène de l'autre côté. Et puis ils sont repartis tous les deux, bon, bras dessus, grand sourire, embrassade, émotion, symbole, comme le mont Paektu, comme le grand manuscrit en hangul du 15e siècle, écriture créée par le roi Sejong au 15e siècle où tous les Coréens se retrouvent. Donc c'était ça qui m'a touché. Je me suis dit, voilà, là, ils ont rendez-vous avec l'histoire.
Alors oui, parce que c'est une rencontre qui avait été réglée comme du papier à musique. Hein. Tous les pas, le menu du dîner du soir, l'étoile
les décorations,
en fond, les décorations, etc. Oui. Mais il y a eu l'intelligence du cœur qui a aussi œuvré.
Des maladresses, des gestes. Enfin, quand ils ont pris les arrosoirs pour planter l'arbre, le pain de la paix et de la prospérité, avec de l'eau... du fleuve Daedong de Pyongyang et du fleuve Han de Séoul et de la terre des deux Corées. Mmh. Et puis bon, un arrosoir, on était un peu pâteau aussi. Enfin bon,
Mais tout était véritablement truffé de symboles.
Oui,
alors probablement
les
symboles les plus importants ont été à l'occasion du dîner de ce fameux... Voilà, alors là, tous les plats avaient une origine. Alors je vais juste en citer deux. Il y avait à la fois des nouilles froides de Pyongyang, c'est absolument délicieux. Et tous les Coréens, au nord comme au sud, adorent ça et elles sont très très réputées. Mmh. Et puis il y avait aussi des rostis, c'est-à-dire ces galettes de pommes de terre râpées qui viennent de Suisse. Un petit clin d'œil à la jeunesse suisse de Kim Jong-un. Et puis il y avait, alors là ça fâche un petit peu et on y reviendra après, maintenant ça nous emmène vers la géopolitique. Il y avait ce fameux dessert très controversé qui était une péninsule en mousse de mangue à côté de laquelle il y a un petit îlot contesté par le Japon. Et bien évidemment, là c'était pour montrer, nous sommes des Coréens, tous les deux, et quoi qu'il se passe autour de nous, nous avons les mêmes objectifs. Donc tout ça, c'est très émouvant.
Donc de la géopolitique jusque dans le dessert, vous l'avez dit, Juliette Morillo. Alors, on aborde la substantifique moelle de notre émission aujourd'hui. La Corée du Sud et la Corée du Nord ont confirmé l'objectif commun d'obtenir au moyen d'une dénucléarisation totale une péninsule coréenne non nucléaire, dit la déclaration de Panmunjom, qui a donc été publiée à l'issue de la rencontre. Entre les mots et la réalité, le fossé est abyssal. Corée du Nord, Corée du Sud ont-elles la même lecture de la dénucléarisation et que vaut cette déclaration quand on sait que la dénucléarisation implique un pays tiers que sont les États-Unis? Alors, veut répondre d'abord, Juliette Morillo.
Oui, alors là, il faut être un petit peu prudent, parce qu'il faut examiner exactement les termes qui ont été utilisés lors de cette déclaration commune. On parle de dénucléarisation de la péninsule coréenne, et non pas de la Corée du Nord. Ce sont des mots qui sont, là aussi, choisis avec beaucoup de précision. Mmh. Et bien évidemment, comme vous venez de le souligner, on pense là aux États-Unis. Donc, il va falloir que au nord, il y ait des marques de bonne volonté, mais au sud également. Et là, on pense bien évidemment au parapluie nucléaire américain. Et d'autre part, toujours pour parler de dénucléarisation, reprenons aussi d'autres termes d'une autre déclaration un petit peu antérieure. Quand Kim Jong-un avait dit qu'il était prêt à dénucléariser la péninsule, c'était avec des garanties de sécurité. Donc chaque fois, il y a des sortes de bémols. Et dernier point, quand Kim Jong-un a annoncé la semaine dernière l'arrêt des essais balistiques et des tests nucléaires, il a aussi dit qu'il avait terminé, qu'il avait parachevé son programme nucléaire. Tout ça pour dire que vous avez des mots dénucléarisation qui sont très très forts, mais que vous avez des bémols. En revanche, les États-Unis demandent une dénucléarisation immédiate de la péninsule. Donc c'est là qu'on peut voir qu'il y a quand même, il manque des choses tangibles. Alors, dans les promesses qui ont été faites.
Vous parliez du parapluie, c'est une chose. L'autre chose, et je me tourne vers vous, Dorian Malovic, c'est ce que demande de façon assez inconditionnelle, la question se pose, savoir si il aura mis de l'eau dans son vin ou pas, c'est ce que demande donc la Corée du Nord, c'est le départ des forces américaines de Corée du Sud.
Eh bien justement, ça c'est plus si clair que ça, parce que dès la semaine dernière, on voit bien qu'il n'a pas demandé le départ des troupes américaines en Corée du Sud. Et ce qui était étonnant, c'est que les manœuvres conjointes américano-sud-coréennes étaient en train de se dérouler jusqu'à hier.
Oui, et il y a eu un stop. Enfin, elles se sont arrêtées le temps du sommet.
Ils ont juste un peu raccourci de 24 heures, mais elles se sont déroulées. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même séparé le grain de l'ivraie. C'est-à-dire, quelle est la chose la plus importante? Bon, la présence des soldats, c'est peut-être pas le préalable le plus important. Les manœuvres, elles ont été un petit peu modérées cette année. Finalement, il est sur l'essentiel. Quand il dit péninsule, il envoie la balle de l'autre côté en disant « Moi, je suis prêt à faire des efforts, j'ai déjà gelé, j'ai déjà annoncé des gels, mais vous aussi, vous allez devoir me garantir ma sécurité totale, ce qu'on répète avec le pacte de sécurité. » Et dans péninsule dénucléarisée, ça veut dire sécurité totale de toute la péninsule avec garantie que même s'il y a des troupes américaines en Corée du Sud, on peut très bien s'en contenter, on peut très bien gérer, on peut très bien avoir cette présence jusqu'à quand, comment, pourquoi. Il y a des scénarios qui sont dans des dossiers et qui sont pas encore sortis. Mais moi, je fais confiance à la créativité nord-coréenne pour faire des propositions qui soient assez étonnantes, assez déstabilisantes, mais qui finalement, peut-être Donald Trump sera vraiment aussi prêt à recevoir, parce que lui aussi, il est aussi peut-être un peu échaudé, il peut réagir de façon inattendue. Ce sont deux personnalités, je le dis, qui sont beaucoup plus rationnelles qu'on imagine. La façon dont ils agissent ne nous plaît pas, mais ceci dit, chacun dans son style, ben, ils font ce qu'ils disent. Et là, ce sommet, de mon point de vue, était une réussite jusqu'au point où il fallait que ce soit réussi pour qu'il y ait le sommet de Trump en début juin. Ça, pour moi, c'est déjà ça une réussite. La dénucléarisation, on en parlera, mais ils ont fait dans la déclaration, ils ont inscrit dans la déclaration ce qu'il fallait pour que Trump ne puisse pas dire « vous n'avez pas pris les engagements que j'attendais et je ne serai pas au sommet ». Donc, ils garantissent petit à petit la pérennité de ce mouvement diplomatique accéléré.
C'est ça. C'est un mouvement vers autre chose, ce sommet dont on n'a pas encore la date, on le situe
début juin.
En tout cas, et je voudrais peut-être qu'on passe un certain temps sur ce que vient de dire Dorian Malovic, Juliette Morillo. Trump est prêt à recevoir un certain nombre de choses. On sent qu'il y a là une fenêtre qui s'est ouverte. Et je pense notamment à cette volonté de la Corée du Nord, derrière laquelle la Chine se place aussi, volonté ou en tout cas intention de chercher à découpler l'Amérique de ses alliés régionaux. Il est vrai que Trump, on sent Trump, en tout cas c'est annoncé depuis le début de sa présidence, une volonté de modérer les appuis vis-à-vis de la Corée du Sud, vis-à-vis du Japon. C'est peut-être là qu'un certain nombre de choses vont se jouer, Juliette Morillo.
Je pense que jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la Corée du Nord. Il faut également parler de l'importance de la diplomatie sud-coréenne, qui est celle qui a un petit peu finalement drivé aussi l'ensemble. Si les initiatives de paix sont, on peut les remonter finalement à ce discours du Nouvel An de Kim Jong-un, Moon Jae-in est celui aussi qui a annoncé le fameux sommet entre Kim et Trump. Donc il y a véritablement une volonté des deux Corées de dialoguer. Alors dans un premier temps, on a pensé que ça allait un petit peu isoler Trump. On peut dire également, dans une certaine mesure, que la Chine pourrait se sentir un petit peu écartée aussi. Mais Kim Jong-un a eu l'intelligence, la finesse, avant ce sommet, de se rendre à Pékin et de rencontrer Xi Jinping.
Et Dorian Malovic. Pour rajouter quelque chose, ce qui est intéressant, c'est que dans la déclaration, il a été prévu qu'il n'y aurait pas de levée de sanctions économiques si des gestes concrets de dénucléarisation n'étaient pas faits. Donc c'est une sorte de garantie, puis c'est ce qui va plaire à Trump aussi. Enfin, je veux dire, il a dit, je ne bougerai pas s'il n'y a pas des gestes. Alors on pourra imaginer des gestes qui nous surprendront peut-être. En attendant, à la frontière sino-nord-coréenne, là où les restaurants nord-coréens avaient fermé, les travailleurs nord-coréens ne pouvaient plus travailler et où les échanges s'étaient taris, eh bien écoutez, moi, les informations que j'ai de cette frontière, c'est que les restaurants nord-coréens ont rouvert, les ouvriers nord-coréens se sont remis à travailler.
Ce qui veut dire concrètement
assouplissement de l'attitude chinoise vis-à-vis de la Corée du Nord. Vous avez fait des démarches positives, vous, à Pyongyang, pour lancer un processus. Moi, j'ai voté des sanctions à l'ONU, mais là, je vais vous montrer ma reconnaissance en assouplissant, et on va remettre un peu le fil économique, on va renourrir un peu plus le fil économique qui était coupé.
Donc la Chine assouplit là où les États-Unis n'ont pas encore pris de décision, Juliette Morillo.
Oui, je pense que pour l'instant, les États-Unis n'ont pas l'intention d'assouplir les sanctions. En revanche, la Corée du Sud pourrait assouplir, elle aussi, elle a déclaré un certain nombre de sanctions qu'elle pourrait assouplir, d'autant que derrière ce sommet, vous avez quand même la volonté affirmée aussi de reprendre des relations économiques entre les deux pays. Peut-être réouverture de zones spéciales comme la zone de coopération spéciale de Kaesong, qui avait été fermée à la suite d'un essai début 2016, qui pourrait réouvrir. Vous avez également une autre zone touristique qui pourrait réouvrir rapidement, qui est sur la côte est, autour de la ville de Wonsan, avec un aéroport qui est là tout près, qui s'appelle l'aéroport de Kalma, avec les monts Kumgang aussi, qui sont les monts du diamant, qui sont très importants pour le tourisme intercoréen. Donc vous avez quand même plein de projets, y compris l'ouverture, la reprise des lignes ferroviaires à travers la DMZ. Vous avez tout ce côté économique.
Zone démilitarisée, hein, la
voilà,
DMZ.
La zone démilitarisée, un charmant euphémisme pour un endroit où vous avez une concentration de militaires énorme. Mais tout cela est extrêmement important et je pense que la Corée du Nord, avant tout, souhaite en effet maintenant passer au second volet de sa politique. Sa politique, c'est le Byongjin. Le Byongjin, c'était, il l'a annoncé il y a 2 ans, ce qu'on appelle la politique de la double poussée. D'un côté, le nucléaire. Mmh. Ça, ce volet-là, on a bien vu, ils ont l'arme nucléaire et ils ont des missiles balistiques intercontinentaux capables d'aller jusqu'aux États-Unis. Maintenant, il passe au second volet, l'économie. Et là, vous avez véritablement des réformes qui ont été menées.
Alors, les réformes, en tout cas, ce volet économique, il a été annoncé de façon plus ou moins publique par Kim Jong-un au plénum du 20 avril. La priorité du pays est désormais le développement économique. Les sanctions internationales enrayent le processus. Quelles sont, Dorian Malevic, les priorités sur le plan économique aujourd'hui? Alors, bien sûr, lever des sanctions, mais en interne, qu'est-ce que le leader nord-coréen a en main pour faire avancer les choses? Quelles sont les priorités?
Certainement que c'est l'énergie. Il va falloir débloquer le pétrole. On sait que, en dépit des sanctions, la Russie s'est chargée très discrètement de compenser les manques chinois en envoyant du pétrole dans les eaux internationales avec des transbordements de pétrole, de matières premières. Le Nord a vendu du charbon aussi aux Russes et il y a quand même eu du pétrole chinois. Donc ça, c'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas faire fonctionner des usines qui sont aujourd'hui très très nombreuses en Corée du Nord. C'est-à-dire la Corée du Nord, il y a 15 ans, peut-être ne fabriquait que de l'alcool et du tabac, mais aujourd'hui, elle fabrique de l'alimentaire, des voitures, des rames de métro. Si vous voulez, c'est intéressant parce que la Corée du Sud, elle a quand même construit son métro qu'à partir des Jeux Olympiques. La Corée du Sud, en 88, aux Jeux Olympiques, a été fière de dire qu'elle avait construit ses premiers métros elle-même, sans importation. Et vous vous dites que l'énergie coréenne, dans son ensemble, elle est la même au Nord et au Sud. Ce sont des commerçants, ce sont des gens mais qui savent compter, qui savent négocier. Et les Chinois l'ont appris à leurs dépens, puisque les Nord-Coréens arrivent à tirer des contrats des Chinois comme personne au monde. Et donc aujourd'hui, évidemment, l'économie, c'est aussi de l'alimentaire pour la population. Il ne veut plus que le peuple nord-coréen souffre de la faim. Il l'a dit en 2012. Et comme en général, tout le monde dans les discours de Kim Jong-un ne garde que la partie qui concerne le nucléaire, le danger, la provocation, l'atome et la planète qui va s'effondrer, tout le monde arrête au moment où il commence à parler de l'économie. Et il en a parlé chaque année depuis 2012. Et c'est très important. Et c'est cette logique-là qui nous échappe, parce qu'on veut pas la voir. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que Kim Jong-un est rationnel, qu'il a un plan, une stratégie, et qu'il veut la mener à bien. Et que ce processus diplomatique, ce rapprochement est une stratégie, mais mûrement réfléchie depuis des années, qu'il a mis sur pied, avec des scénarios qui peuvent varier en fonction du moment, de l'interlocuteur, du lieu, mais que tout ça, ils ont préparé des dossiers, vous pouvez pas imaginer, la diplomatie nord-coréenne, elle est au point. Donc, aujourd'hui, ils y vont avec des possibilités de faire des gestes concrets sur le nucléaire, par exemple. Moi, je peux imaginer que quelques têtes nucléaires nord-coréennes pourraient être cédées en gage de bonne volonté. Ils en ont 40, 50, 60. Ils peuvent toujours en donner 4-5 pour dire, voilà, à Trump, nous commençons notre processus. Trump sait très bien que tout ne va pas être dénucléarisé, démantelé, vérifié en 2 mois. Ça va être un processus long. C'est pour ça que...
Quand on dit long, on dit quoi? Vous êtes sur quel...
On est au moins sur une année ou deux.
Au minimum. C'est assez court, somme toute.
Un processus. Vous imaginez l'ONU, l'AIEA, les inspecteurs, des parrains, des garants, organiser les venues, les visites, évaluer les rapports. Il va falloir du temps et il va pouvoir montrer sa bonne volonté, mais il va la distiller, sa bonne volonté. Il va pas subitement baisser les bras, mais il est la puissance nucléaire, donc on peut pas faire n'importe quoi avec lui, c'est ça sa force.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Dorian Malevic et Juliette Morillo dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Corée, le sommet intercoréen d'hier vendredi, un sommet historique qui s'est tenu dans la zone démilitarisée entre les deux pays. Nous retrouvons nos invités, Juliette Morillo, journaliste, historienne, spécialiste des deux Corées, auteur de plusieurs ouvrages dans Le Monde selon Kim Jong-un aux éditions Robert Laffont et La Corée du Nord en sans question, qui a reçu le prix du meilleur livre de géopolitique 2018, un ouvrage paru aux éditions Thaïlandier, et Dorian Malovic, journaliste, chef du service Asie et au quotidien La Croix, co-auteur avec Juliette Morillo de Le Monde selon Kim Jong-un, paru chez Robert Laffont. On a parlé à la fin de la première partie de l'émission des réformes économiques et du besoin par rapport aux sanctions, ne serait-ce que cela, et au programme et aux intentions du leader nord-coréen, Juliette Morillo. On va peut-être parler de la question de la réconciliation entre les deux Corées. Le texte final, la déclaration de Panmunjom, proclame, en plus de la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, proclame qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule. Alors, on sait que la Corée du Sud, juste pour mémoire, pour nos auditeurs, n'est pas signataire de l'armistice qui a mis fin aux hostilités de la guerre de Corée. L'accord a uniquement été signé par le commandement des forces des Nations Unies, représenté par les États-Unis, la Chine et la République populaire de Corée, donc la Corée du Nord. Comment est-ce qu'on peut imaginer les choses se passer? Quelles sont, d'après vous, les étapes à venir? Juliette Morillo.
Alors là, vous avez évoqué une éventuelle réunification. Bon, d'emblée, il faut dire qu'on en est extrêmement loin. Je pense que tous les Coréens, au nord comme au sud, quand on parle sur le plan sentimental, c'est un seul peuple, on a envie d'une réunification. Mais dans la réalité, les choses sont très 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 différentes. C'est-à-dire déjà, au sud, vous avez une sorte de clivage dans la population sud-coréenne. Vous avez, grosso modo, la vieille génération, qui a connu finalement la guerre, qui a connu une Corée du Nord belliqueuse, qui aurait presque envie d'en découdre et qui verrait presque d'un mauvais œil finalement ce sommet, cette réconciliation, qui n'a pas confiance en Pyongyang. Mais ça, c'est l'ancienne génération. Mmh. C'est celle de la présidente qui a été destituée, qui a été condamnée à 24 années de prison.
Madame Park.
Moon Jae-in, lui, en revanche, a été élu sur la promesse d'une main tendue vers la Corée du Nord. Il a été élu également, c'est pour ça que je vous parlais de fracture générationnelle, par une jeunesse. Cette jeunesse, finalement, elle pense à l'économie, elle pense à son bien-être. Les Nord-Coréens, ils s'en fichent un petit peu, très honnêtement. Ils n'en ont pas peur, mais ils n'ont pas fondamentalement envie d'une réunification, d'autant qu'ils ont vu énormément de Nord-Coréens réfugiés qui avaient quitté la Corée du Nord, qui sont réfugiés en Corée du Sud, et qu'ils sont, pour être un petit peu lapidaire, un petit peu considérés comme des parias, comme des ploucs. Enfin, il n'y a pas de véritable lien. Donc cette réunification, ils n'ont pas envie de sacrifier en fait leur niveau de vie à la Corée du Nord.
On retrouve là ce qui s'est passé avec les deux Allemagnes.
Mais de façon beaucoup plus extrême. D'une part, ça coûterait très cher, mais le fossé entre Corée du Nord et Corée du Sud, économiquement et niveau de vie, est bien plus énorme.
Le rapport, il est de quoi? 1,40 plus?
Ah oui, non, c'est 1,40.
Oui.
Ça coûterait énormément, mais les deux Allemagnes ne se sont pas fait la guerre.
Alors,
c'est une énorme différence quand même.
Les Nord-Coréens, eux, ils aimeraient avoir une sorte de fédération, de confédération. Grosso modo, ce serait une péninsule et deux régimes. Avec, bien évidemment, des échanges culturels, des échanges sportifs, militaires, économiques. Évidemment, le bât blesse quand on en arrive à la liberté de circulation entre les deux Corées. Nous avons posé la question en Corée du Nord. Là, les Nord-Coréens sont un petit peu plus embarrassés. Ils nous disent, au bout de quelques années, on ferait un référendum et on verrait bien quel côté on choisit. Mais je suis pas sûre qu'ils y croient véritablement eux-mêmes. Néanmoins, c'est ce qu'ils voudraient. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces deux Corées voudraient discuter de l'avenir du pays, et c'est ce que demande la Corée du Nord, indépendamment des États-Unis, sans la présence américaine.
Ce qui est intéressant. Dorian Malevic. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, j'ai interrogé une Nord-Coréenne qui avait fait défection à Séoul et qui dit, peut-être qu'avec le réchauffement entre les deux Corées, avec ce que ça va provoquer dans les mois qui viennent, peut-être que je pourrais peut-être voyager en Corée du Nord, retrouver ma famille, revenir en Corée du Sud, des voyages. C'est-à-dire que le tourisme, là, il y a du tourisme chinois, c'est pas dans les sanctions de l'ONU. Ils peuvent très bien rouvrir des canaux de touristes, comme ils vont refaire des rencontres de familles séparées par la guerre. C'est prévu le 15 août, symboliquement, le jour de la libération, le jour de la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les deux Corées ont une marge de manœuvre pour se permettre des améliorations entre eux. Vous savez, Il y a une créativité sur cette péninsule qui est sans limite. Quand vous voyez d'où est partie la Corée du Sud et qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est qu'un Samsung, et la Corée du Nord qui est en train de fabriquer ses portables, ses trains et ses ordinateurs. Donc l'union des deux, économique, même en étant séparés, mais en union, en fusion, ça fait un peu peur au Japon, ça fait un petit peu peur à d'autres pays. Et si elle se rapprochait, la Corée du Nord, un peu trop des États-Unis, ça risquerait de faire pas très plaisir à la Chine non plus.
Est-ce qu'elle en aura envie de se rapprocher des États-Unis, la Corée du Nord? On lit, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la préparation de cette émission, le Washington qui continue d'être l'ennemi public numéro un.
Relations diplomatiques, ambassades qui s'ouvrent, ça va quand même signifier quelque chose sur des échanges, du commerce. Les Nord-Coréens vont jouer habilement, encore une fois, entre les États-Unis et la Chine, comme ils ont joué l'URSS et la Chine.
Oui, d'autant que, en effet, les États-Unis sont l'ennemi historique de la Corée du Nord et toute la population se juge sous menace américaine. Alors, il est évident qu'on peut se demander ce qui se passerait s'il y avait un rapprochement avec les États-Unis. Mais en fait, il faut simplement comprendre que Kim Jong-un et la politique que mène Kim Jong-un en Corée du Nord le transforment presque en une sorte de héros. Il a l'arme nucléaire, il peut tenir tête aux États-Unis, il a pris l'initiative de tendre la main à rameau d'olivier à la Corée du Sud, il va rencontrer Donald Trump. Donc s'il y avait un rapprochement avec les États-Unis, c'est lui qui en aurait... Voilà, qui en bénéficierait. Immédiatement, il serait considéré comme un héros qui a réussi à convaincre les États-Unis et finalement à apporter la paix en Corée du Nord et à éloigner ce conflit. Donc il n'y aura pas de hiatus si la situation change.
Alors, comment ce sommet historique a-t-il été perçu dans les capitales étrangères? On a vu la Chine saluer le courage de messieurs Kim et Moon. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, évoquait un pas positif vers une résolution d'ensemble de plusieurs questions concernant la Corée du Nord. Et le Kremlin a accueilli des nouvelles très positives. Un commentaire.
C'est parfait, c'est parfait. C'est-à-dire, l'objectif du sud-coréen Moon Jae-in était de réussir ce sommet. On voit bien ce que disait Juliette Morillo, c'est tout devait être positif en Corée du Sud. C'est-à-dire, on avait un objectif, que rien ne dérape, que rien ne se passe de dangereux, et que ce qu'il y a dans la déclaration, y soit. Et on garantit le succès de Trump. Donc, finalement, ça s'est bien passé, c'est une réussite. Tout le monde se réjouit, parce que tout le monde discute, plutôt que de se menacer de tirs de missiles, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors le japonais, à mon avis, il a dit bravo en faisant une grimace, évidemment, parce que il n'était pas aussi positif auparavant, mais bon, c'est un allié américain, il va devoir faire avec. Je pense que les autres pays seront ravis, mais on peut regarder ça avec une certaine prudence aussi, c'est-à-dire que tout n'est pas réglé. De mon point de vue, ce sommet est une réussite de ce qu'il va provoquer pour la suite. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et ça va se poursuivre, surtout, ça va pas capoter. Et il y a encore un calendrier qui est annoncé pour les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on va maintenir le rythme, la substance des rencontres et il va y avoir chaque fois des éléments, une feuille de route est déjà en train de se mettre en place. Donc ça, quelque part, on ne peut pas le nier. Certains sceptiques américains disent « Oui, souvenez-vous, 2000-2007, les mêmes promesses avaient été faites, ça n'a pas été tenu. » 2000-2007, c'est la préhistoire par rapport à aujourd'hui. La Corée du Nord n'était pas nucléaire, vous n'aviez pas un Kim Jong-un, vous n'aviez pas un Trump, vous n'aviez pas un Xi Jinping surtout, et vous n'aviez pas un Moon Jae-in. Ces comparaisons-là sont un peu énervantes parce que, ok, ça nourrit le scepticisme de certains qui, de toute façon, ne changeront pas d'avis, sauf si des changements arrivent, mais même des changements qui arrivent, ils sont pas d'accord pour les accepter. On verra bien, on verra bien. Prenons, moi j'ai dit chaque jour suffit sa peine, mais ça avance quand même, c'est indéniable.
Juliette Morillo, un succès?
Incontestablement, je pense que c'est un succès pour les deux Corées, mais encore une fois, comme vient de le dire Dorian Malovic, ça prépare la rencontre, le sommet avec Trump. Et là, en fait, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. C'est-à-dire autant la Corée du Nord, parce que maintenant, Kim Jong-un est présenté dans les médias et considéré comme un véritable chef d'État à part entière, quelqu'un que l'on a envie de rencontrer. Il est allé en Chine, il va peut-être aller à Moscou, il va peut-être rencontrer également Shinzo Abe. Là il va rencontrer bien évidemment Trump. Donc c'est tout à son honneur, mais du côté de Trump, Trump bien évidemment aurait intérêt à ce que soit associé à son nom cet apaisement, même si ça ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à la totale dénucléarisation. S'il arrive au moins à obtenir un moratoire solide, un apaisement des tensions sur la péninsule, bien évidemment, c'est lui qui en récoltera les bénéfices. C'est-à-dire qu'il fera ce que Barack Obama n'a pas fait. Barack Obama a préféré s'intéresser à Cuba. Il a finalement donné le bébé nord-coréen à Trump. Eh bien, s'il réussit cela, bien évidemment, c'est quand même très important pour tout le monde que ce sommet se passe bien. Après, l'eau peut couler sous les ponts, ça va être très très long, la feuille de route va être longue, mais pour l'instant, on est dans une embellie qui, à mon avis, va se poursuivre encore quelques mois.
Dorian Malovic, vous voulez rajouter quelque chose ?
Comme dans toute évolution de processus, il faut être prudent et ne pas s'emballer dans un optimisme béat. Comme disait Eugène Morillo, il y a 2 ans, tout le monde disait que Kim Jong-un était cinglé. Nous, on se permettait de dire l'inverse. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Mais ceci dit, là maintenant, les médias semblent basculer en vénérant Kim Jong-un du jour au lendemain parce qu'on découvre qu'il sourit. Finalement, il est plus agréable alors qu'en fait, il est toujours le même. Mmh. Seulement, on le regarde différemment. Mmh. Maintenant, attendez, il y a des étapes cruciales à surmonter. Nucléaire, dénucléarisé, les armes chimiques, les souterrains, les usines, les 50 têtes nucléaires qui sont quelque part en Corée du Nord. Il va falloir effectivement que les choses se fassent de façon apaisée. Mais vous ne pouvez pas arriver à ça si vous ne commencez pas à parler, si vous commencez pas à mieux vous connaître, si vous ne commencez pas à vous serrer la main. Ça peut paraître naïf, mais ceci dit, c'est la diplomatie de la rencontre. Que prône le pape François ? C'est ça qui est étonnant, parce que Moon Jae-in, le catholique, s'est beaucoup inspiré aussi de cette approche. Et le sommet d'hier entre les deux, moi j'ai quand même vu une diplomatie de la rencontre. Mmh. Il a discuté tout seul avec Kim Jong-un, ils se sont parlé, ils se sont touchés, ils ont ri. Il a humanisé le Nord-Coréen, et aux yeux de l'opinion publique sud-coréenne, c'est pas rien.
Alors, percée diplomatique pour le leader nord-coréen. On va faire vraiment encore plus de géopolitique que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Comment voyez-vous la donne géostratégique en Asie de l'Est se mettre en place ? Qu'est-ce que cela va faire bouger, Dorian Malovic ?
Écoutez, il faut qu'on remette devant la scène. Ultimement, l'ennemi numéro un en Asie, pour les Américains, c'est la Chine. L'épouvantail nord-coréen cachait bien la forêt chinoise, mais le bouc émissaire nord-coréen était bien utile pour renforcer la défense de la Corée du Sud avec les missiles antimissiles qu'on a posés il y a encore quelques mois, renforcer l'armée japonaise, la moderniser, installer une nouvelle base sur les îles japonaises contre les intimidations militaires chinoises dans la mer de Chine orientale, autour de Taïwan, et dans la Chine de mer du Sud. C'est-à-dire que si on regarde globalement, l'objectif, c'est que si cette menace nord-coréenne s'amenuise, c'est en train de basculer petit à petit, ce ne sera plus un problème et on va pouvoir s'occuper de tous ces endroits comme Taïwan ou la mer de Chine du Sud, les Philippines et le Vietnam, où la Chine est un petit peu agressive.
Oui, mais là, les États-Unis vont avoir quand même à s'interroger, notamment en mer de Chine méridionale, face à cette expansion chinoise en mer de Chine méridionale, là, qu'est-ce qui va justifier aujourd'hui la présence américaine dans la région ? Alors finalement, depuis des années, on se contentait d'une espèce de statu quo sur laquelle d'ailleurs la Corée du Nord a joué très très habilement, mettant dos à dos tous les agendas de la communauté internationale et des acteurs concernés, c'est-à-dire la Chine, rappelons-le rapidement, la Chine ne voulant pas véritablement une Corée réunifiée avec des troupes américaines à ses portes et voulant la Corée du Nord comme état tampon, le Japon ne voulant pas forcément un bloc réunifié avec animé de sentiments anti-nippons. Les États-Unis ont besoin de la Corée du Nord finalement face à la montée en puissance chinoise. Maintenant, il est évident que tout cela, les cartes vont être redistribuées différemment et Trump, avec sa manière un peu brutale, finalement a mis un coup de pied dans la fourmilière et dans ce statu quo, et là je fais allusion également dans cette manière de procéder à ce qu'a dit Kim Jong-un qui a rencontré Mike Pompeo à Pyongyang, et Pompeo c'est quand même un faucon, c'est un dur de dur, et bien Kim Jong-un, qui est un pragmatique lui aussi, a dit il a le même feu qui brûle dans son ventre. Autrement dit, en termes un petit peu vulgaires, c'est un vrai mec, on se comprend. Peut-être qu'en effet, dans une certaine mesure, cette manière moins policée qu'a pu avoir Trump et l'administration américaine a véritablement fait bouger les choses. Mais maintenant, vous avez des lignes qu'il va falloir remettre droit et toutes les cartes vont être à redistribuer.
Dorian Malovic.
Je pense que ce sont des personnages qui finalement vont aller très bien ensemble. Que ce soit Kim Jong-un et Donald Trump, ce sont des personnages atypiques qui fonctionnent pas comme tout le monde et je pense qu'ils vont se retrouver. Mike Pompeo, effectivement, il y a eu que des compliments, moi c'était étonnant sur Mike Pompeo ou Mike Pompeo sur Kim Jong-un qui a été transmis à Donald Trump, qui dit ça a l'air d'être un type qui est vraiment bien solide, qui sait, il y a une sorte d'admiration mutuelle. Il faut dire qu'ils se sont fait un bras de fer pendant un an l'année dernière, il y en a pas un qui a craqué. Et alors là quand même, il y a quelque chose qui s'est fait, c'était quand même le jeu de poker, hein. C'était quand même des bluffeurs et des joueurs absolument solides, et que subitement, janvier, ça y est, on part sur un autre chemin, parce que on s'est mesuré jusqu'à la limite, on n'a pas craqué, il n'y a pas de guerre, et là, effectivement, hein, les personnages, les caractères, ils sont très de feu quand même, les deux personnages, c'est des égos démesurés, et peut-être que le respect mutuel, finalement, fera que on trouvera un terrain d'entente, d'une certaine façon.
Alors, tout ça n'est pas né de rien. On savait qu'il y avait des canaux de communication, Juliette Morillo, avec la Corée du Nord. Sinon, ce sommet ne se serait probablement pas passé, et encore moins le sommet à venir avec Donald Trump, entre donc le leader nord-coréen et le président américain. D'ici à juin, fin mai, juin, en tout cas avant l'été probablement, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que l'on peut imaginer? Est-ce que
Le téléphone entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, cette ligne, a été rétabli. Donc déjà, ils peuvent se parler. Je pense qu'on va multiplier un certain nombre, alors ça c'est en surface, un certain nombre de gestes symboliques. Là, on a vu, il y a 3 semaines, la venue d'un orchestre de K-pop sud-coréen à Pyongyang. Vous allez peut-être avoir d'autres échanges culturels ou d'autres échanges sportifs ou touristiques qui vont être un petit peu en marge, qui vont paraître un petit peu légers, mais qui vont entretenir finalement cette flamme et ces relations et également avoir un impact très fort sur l'opinion publique. Alors en Corée du Sud, mais également maintenant il va falloir préparer aussi l'opinion publique en Corée du Nord, parce qu'elle n'a pas été vraiment forcément mise au courant de toutes ces avancées. Donc il va falloir faire changer les opinions petit à petit. Et derrière tout cela, bien évidemment en coulisses, vous allez avoir une effervescence diplomatique, non seulement entre les deux Corées, mais probablement également avec la Russie, la Chine, le Japon. On en a parlé tout à l'heure, on pourrait imaginer que Kim Jong-un également peut-être se rende à Moscou et qu'il y ait un sommet aussi avec Shinzo Abe.
Pardon, excusez-moi, ça ne va pas s'arrêter, si vous voulez. Effectivement, il y aura des tas d'événements que nous jugerons relativement minimaux, mais qui seront importants parce que la ligne est rebranchée, si vous voulez. Le courant repasse. Et donc, il va falloir l'alimenter. Moon Jae-in va aller à Washington mi-mai. Donc, les choses, ils vont discuter. Il va lui parler de ce qu'il a dit au sommet de Panmunjom. Il va y avoir des discussions sur les gestes possibles de Kim Jong-un avant qui se discutent aujourd'hui. Il y a 3 prisonniers américains qui sont toujours en Corée du Nord. Donc ça, dans la liste, ça va compter. Il y a toujours des prisonniers sud-coréens. Il y a toujours des kidnappés japonais. C'est-à-dire que le côté nord-coréen a quand même des atouts, si je puis dire, qui vont être présentés comme des concessions, des gestes qui vont permettre, là aussi, Trump de faciliter les choses, et il va demander à Trump aussi certains assouplissements. Peut-être pas des levées de sanctions immédiates, mais une certaine tolérance ou un assouplissement d'un certain nombre de choses. Et ça, ça va être du deal, ça va être du donnant-donnant.
Il y a une fenêtre, en tout cas, elle est là.
Énorme.
Et je pense que nous aurons l'occasion de vous réinviter, et j'en serai ravie, pour nous parler à nouveau des deux Corées, et puis de la relation avec les États-Unis. Merci Juliette Morillo, je rappelle que vous êtes journaliste, historienne, et auteure de plusieurs ouvrages, Le Monde selon Kim Jong-un, aux éditions Robert Laffont et La Corée du Nord en sans question, ouvrage qui a reçu le prix du meilleur livre de géopolitique 2018, et Dorian Malovic, journaliste, chef du service Asie au quotidien La Croix et co-auteur avec Josette Morillo de Le Monde selon Kim Jong-un aux éditions Robert Laffont. Ça n'a pas changé. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée aux lanceurs d'alerte.